la vie, si elle n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas pavée de risques dus à une insécurité chronique qui ne toucherait que le centre-ville de Carpentras. Je vais vous raconter juste très vite une petite anecdote. À un moment donné, il y avait deux Tunisiens qui buvaient le café à 9h30 du soir. Ils disent, mais on ne comprend pas pourquoi les gens ne sortent pas à Carpentras. Ils disent, je ne sais pas. Ils disent, mais les Français, ils ne sortent pas dans la rue. Hein. Il n'y a que les Arabes. Nous, les Arabes, on sort. Ils disent, bah, je ne sais pas, les Français, ils ont peur. Ben, nous, les Arabes, on n'a pas peur. C'était d'une telle naïveté que moi, j'ai souri. Mais franchement, ça fait plaisir de voir et de constater que ce en quoi on croyait vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait pas plus de danger qu'ailleurs, et qu'au contraire, les gens, ils étaient prêts à venir participer au développement de la vie, quoi. Donc, cette espèce de fantasme de l'insécurité, on a une caméra vidéo qui est pile poil en face. Nous, en tout cas, depuis 2 mois qu'on est ouvert, et on n'a pas des gros bras, hein, c'est tenu par des femmes. Donc, Odile et moi, on se partage la tâche, et à 10h du soir, on est toutes seules pour fermer. Écoutez, franchement, c'est un régal, et on n'a pas de problème, en tout cas. Pas plus qu'ailleurs, et voilà. Donc on peut témoigner quand même que les choses sont possibles ici. On remercie la ville de prêter son matériel et puis d'avoir permis aussi que le projet se soit réalisé, ainsi que la région PACA, qui nous aide aussi beaucoup, et le conseil général qui croit beaucoup au projet. Donc voilà. Et puis c'est un projet où tous les citoyens sont amenés à venir proposer des choses, participer, venir à des débats. On a un petit cahier, si vous voulez laisser votre adresse pour recevoir la newsletter ou proposer des choses, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc je suis très très contente de recevoir Clément Michel et Clément Duravy qui vont vous présenter eux-mêmes leurs invités, parce que nous, on invite des gens qui invitent. Bonne soirée.
Merci. Merci Adèle. Donc voilà, je me suis présenté tout à l'heure rapidement. Donc, je suis Michel Guéraud, je suis le rédacteur en chef du mensuel Le Ravi. Le mensuel Le Ravi, donc, qui est ici, je me mets là, sinon c'est Barbie Larsen, qui est un régional, qui fête ses 10 ans d'existence cet été, et qui mène cette double ambition de, à la fois, faire de l'enquête, de l'investigation, un journalisme finalement de fond qui creuse, qui ne se contente pas uniquement des communiqués, qui pose des questions qui peuvent éventuellement déranger. Donc voilà, ça c'est le fond de la ligne éditoriale. Et qui a décidé de faire ça parce qu'on a souvent le sentiment, en faisant de la satire aussi, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce soir par exemple on aborde un sujet pas foncièrement rigolo, et que plus on aborde des questions sérieuses, mieux il vaut ne pas se prendre trop au sérieux. Voilà, donc il y a du dessin de presse, et ça fait un peu notre identité. Alors j'en viens de suite à l'objet de cette réunion ce soir. Notre pratique du journalisme, c'est de ne pas se contenter de faire des enquêtes, aussi souhaitons-le fouillées soient-elles. C'est aussi, le plus souvent possible, d'organiser des rencontres avec des lecteurs, des rencontres publiques, pour débattre sur ce dont on parle. Et là, on sort donc un numéro où on a voulu se pencher, et on s'est penché particulièrement sur Carpentras. Maréchal, nous voilà, donc on l'a intitulé comme ça, qui paraît pas un moment neutre. C'est-à-dire, on est à il y a un an, hein, Marion Maréchal Le Pen s'est fait élire députée. Elle est aujourd'hui en France la seule députée vraiment étiquetée FN. Le Vaucluse, on va en parler, à bat les records, puisqu'on a un deuxième député d'extrême droite en France sans l'étiquette FN, et c'est le Vaucluse aussi, hein, c'est, on part à Orange. Et puis ensuite, le troisième, il est Rassemblement Marine Le Pen, c'est Collard, marseillais d'origine, mais là, ça nous amène dans le Gard, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc... un an après son élection, on a voulu revenir sur l'implantation du Front National, et ce soir, on pose cette question-là. On va la poser avec nos invités que je vais présenter. On n'est pas très nombreux. On va essayer de faire ça de façon la plus interactive possible, c'est-à-dire on va faire des interventions courtes. Chaque invité va prendre la parole une dizaine de minutes, et ensuite on va faire un échange sale. Alors parmi nos invités, je sors ma petite fiche. Personne, il ne faut pas dire de bêtises. Christelle Marchand-Lagier, ici, qui est donc sociologue, je simplifie forcément, spécialiste du vote FN en PACA, voilà, on peut le dire comme ça, et qui est aussi maître de conférences à l'université d'Avignon. Ensuite, je vais respecter l'ordre géographique, Christine Longue-Badinier, qui est présidente d'Orange Autrement, association qui se bat pour faire vivre le débat démocratique à Orange, qui est aujourd'hui en France, hélas, hein, un cas de figure atypique, c'est-à-dire celui d'une commune où l'extrême droite s'est implantée et s'est durée, a su durer. On en parlera. À ses côtés, Alain Rayot, qui est conseiller régional Front de Gauche, qui est aussi docteur en sociologie, hein, et anthropologie, et qui vous parlera plus spécifiquement de Vitrolles, parce qu'il y a été adjoint. Vitrolles, donc aussi ville qui vous en souvenez certainement, a été gérée par l'extrême droite, Maigret, mais qui est aussi... dans son parti, à une réflexion plus globale, hein, sur la question du vote FN, des passerelles qui existent ou pas entre les électorats. On en parlera donc. Alain Viau, donc géographiquement le dernier intervenant, et qui lui vient de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, et qui est présidé à l'arme citoyenne. Et qui durant pas mal d'années, s'est investi dans différents moments, à le Front, à l'Arme citoyenne. Lui aussi confronté à une municipalité d'extrême droite et qui s'est engagé donc, face à cette situation-là. Donc, on y va, on a pris un peu de retard. Donc, on va commencer avec Christelle Marchand-Lagier, partant de vos travaux, une espèce de synthèse impossible de résumer, enfin de cette implantation, et peut-être de ce qui est nouveau en fait d'une articulation entre ce qui se passe ici au local et une stratégie nationale, celle de Marine Le Pen, qui n'était pas celle de son père, d'une implantation justement locale.
Bonsoir à tous, donc merci de m'accueillir ici, je suis ravie de participer à ce débat. Je vais juste vous dire quelques mots sur mes travaux, je parle pas assez fort. Alors, il faut que je me lève. Alors, je suis désolée. Peut-être vous dire quelques mots sur mes travaux, c'est le plus simple, et puis après si vous avez des questions on reviendra de manière un peu plus précise là-dessus. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la question du Front National. Donc, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur l'électorat féminin Front National, puisque c'est ce qui m'intéressait. Alors, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet ? C'est assez compliqué, en fait. C'est-à-dire que je me retrouvais à côtoyer des gens, parce qu'on a tous autour de nous, hein, on est quand même dans une région dans laquelle les gens votent Front National, donc on en a forcément autour de nous, des gens qui avaient fait le choix de cette préférence politique. Sans que je comprenne pourquoi, alors qu'on partageait des tas de choses par ailleurs, pourquoi sur cette question-là on était autant en désaccord. Donc je me suis posé la question de savoir quelles étaient les raisons de cette préférence et comment on pouvait essayer de la comprendre. Donc voilà, on m'a suggéré de travailler sur l'électorat féminin parce qu'il y avait très peu d'études sur le sujet, étant donné qu'on considère, on considérait du moins au tournant des années 2000 que c'était l'électorat féminin, l'électorat Front National, pardon, était essentiellement masculin et qu'il y avait très peu de femmes qui finalement se rapprochaient de ce parti. Donc je me suis dit, je vais entrer par les marges, en fait, et essayer de voir comment on peut essayer de comprendre cette préférence. Donc j'ai fait une enquête qualitative auprès d'électrices, militantes, adhérentes du Front National dans le Vaucluse. Il y a différents résultats de cette enquête, et notamment, une insertion dans des réseaux locaux pour des individus qui, du point de vue biographique et de leur trajectoire, sont souvent déclassés, décalés, et pour les femmes que j'ai rencontrées, notamment des trajectoires matrimoniales plutôt chaotiques et un rapprochement avec le Front National qui était quand même assez étroitement lié à ça. Donc ça, c'est ma thèse et les résultats de ma thèse en 2005. Je suis retournée sur mon terrain en 2010, c'est-à-dire que je suis retournée voir les personnes que j'avais rencontrées à la fin des années 90 pour essayer de voir où elles en étaient, si elles étaient toujours au Front National, et pour la majorité d'entre elles, elles y étaient avec un petit détour en 2007 par le vote Sarkozy, et puis qui finalement étaient revenues vers leurs premières amours et donc proches de ce parti. Bon voilà, ça c'est les travaux plutôt qualitatifs sur lesquels j'ai travaillé. Depuis, et notamment depuis que je suis à l'université d'Avignon, on essaie de travailler de manière un petit peu plus systématique sur le territoire vaucusien, le territoire de la région PACA aussi, pour essayer de comprendre pourquoi on présente dans la France cette sorte d'exception, avec des candidats FN qui s'implantent, qui sont là, qui d'élection en élection, alors sinon progressent, au moins maintiennent leurs scores électoraux. Et puis avec des élections cantonales en 2011 qui nous font quand même un peu réfléchir, parce qu'on se retrouve avec des candidats sur une élection intermédiaire sur laquelle le Front National d'habitude peine un peu à être représenté, avec des candidats FN qui sont présents au second tour et qui progressent entre les deux tours. Donc voilà, on est quand même dans une dynamique dans laquelle on sent que cette implantation locale, en Vaucluse notamment, aujourd'hui elle produit des effets. Et elle produit des effets au fur et à mesure des différentes élections. Et c'est vrai qu'en dehors des présidentielles aujourd'hui, le Front National arrive à être présent. Et ça, c'est quand même une nouveauté des derniers scrutins. Donc voilà, donc nous, on a travaillé sur des questionnaires sortis des urnes lors des dernières élections à Avignon, sur un quartier avignonnais sur lequel on a un bureau de vote qui se partage en fait avec un vote PS très fort, et puis un vote Front National qui arrive en deuxième position, et avec une droite qui est complètement écartée du jeu. Donc voilà, et à un moment donné, un Front National qui devient un choix possible à droite. Et c'est sûrement une des nouveautés sur nos territoires, c'est que quand vous retrouvez au second tour avec des candidats qui sont présents depuis de longues années sur le territoire, avec une étiquette politique qui s'est installée, quand vous avez un candidat Front National au second tour, il peut représenter un choix possible à droite pour des gens qui sont aussi déboussolés par une classe politique aussi qui pose un certain nombre de questions. Donc voilà, donc on réfléchit un peu sur ces dynamiques-là. Donc c'est un peu le travail qu'on essaye de mener aujourd'hui, de manière un peu concertée avec d'autres équipes de recherche, pour essayer de saisir comment cette stratégie de Marine Le Pen, on nous parle un peu médiatiquement de cette forme de dédiabolisation. Marine Le Pen aurait mis en place une dédiabolisation du parti qui expliquerait ses scores. Moi, je pense davantage que elle joue au contraire sur ses implantations locales de longue durée et qu'elle a aujourd'hui une véritable stratégie de maillage local du territoire que n'avait pas son père et qui va peut-être, qui peut changer. Et là où il y a véritablement un risque d'implantation, il est là. C'est qu'elle joue la carte locale. Et cette carte locale, j'ai quand même le sentiment que dans le Vaucluse, on a un petit peu d'avance sur les autres territoires et qu'on va peut-être voir se jouer un peu plus rapidement que les autres des choses qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Donc voilà, on est un peu sur... Donc il y a à la fois, je pense, une stratégie nationale de sabotage de l'UMP, qui est clairement affirmée par la présidente du Front National. Et puis il y a la volonté, elle l'a dit elle-même dans des discours, de développer le modèle Hénin Beaumont partout en France. Et il se trouve que dans nos régions à nous, c'est là où, effectivement, on a une implantation locale. Voilà, donc, il y a peut-être des analyses à faire aussi sur ces candidats. Quel candidat on va avoir pour les municipales de 2014? Sur des scrutins secondaires comme les cantonales, quel type de candidat on avait? Comment le FN arrive à présenter des candidats un peu partout? Voilà, il y a quand même des choses à analyser et à réfléchir. Voilà, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. Peut-être que ça fera l'objet de questions. Je pense que c'est plus intéressant de laisser place au débat. Je passe la parole à mes collègues.
Je pensais terminer par Orange pour arriver au local. Donc pourquoi pas Alain Ayot, donc Vitrolles, qu'est-ce qu'on peut tirer avec un peu de recul de ce passage? Parce que le Front National quand même prétend toujours être le parti aux mains propres, celui qui n'a jamais été au pouvoir. Il joue beaucoup cette carte-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'expérience vitrolaise et puis ensuite élargir le champ?
C'est un peu compliqué de revenir comme ça sur Vitrolles, mais parce que, comme ça vient d'être dit, et de manière très, très, très juste, les périodes historiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Vitrolles se situe dans un contexte qui est un contexte de politique où le Front National est dans une logique totalement nationale, absolument pas d'implantation locale. Je dirais presque que la conquête des mairies va constituer non pas une divine surprise pour Le Pen, parce que ça lui plaît pas. Le Pen n'est pas dans une logique de conquête du pouvoir dans ces années-là. Il est dans une logique de construction d'un rapport de force, d'une sorte d'affrontement permanent avec ce qu'il appelle l'établissement, avec la société française globalement. Et la conquête du pouvoir ne fait pas partie de ses objectifs. Il est au contraire dans une volonté d'assurer une sorte d'accumulation, en particulier autour de lui, autour du FN, autour de son nom. Quelque part, c'est une stratégie qui va réussir, puisqu'elle va s'achever en 2002 par la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Mais il y a eu, il y a deux, trois ans, un documentaire à la télé où on assiste à un échange entre Le Pen et un de ses lieutenants qui lui dit qu'il est absolument ravi des victoires à Toulon, à Vitrolles, à Marignane, etc., à Orange, et qui lui dit « Bientôt, on va arriver au pouvoir ». Et Le Pen le regarde et lui dit « Dieu nous en garde. Hein, Dieu nous en garde. Hein, » Donc on est dans une autre époque historique, et il faut le prendre comme tel. Voilà. D'ailleurs, Le Pen n'a jamais cru à la réussite des municipalités. Or, aujourd'hui, on est dans une stratégie totalement différente, celle qui vient d'être appelée, c'est-à-dire une tentative de dédiabolisation qui est beaucoup plus fine et plus complexe que ce que veulent bien en dire les médias prétendument spécialistes, parce qu'en réalité, Marine Le Pen ne cherche pas à en rabattre du point de vue du contenu de son discours politique ou de sa démarche. Elle cherche au contraire à créer les conditions d'un regard de la société française qui lui permettrait précisément cette stratégie du maillage et cette stratégie d'implantation territoriale, parce que elle a changé, elle s'inscrit dans une nouvelle étape. Manifestement, le FN de son père n'en avait pas les moyens, mais le sien s'inscrit dans un contexte européen, un certain type de montée des populismes, qui lui permet d'envisager une conquête du pouvoir. Et la question aujourd'hui, d'ailleurs, n'est pas de savoir... mais cette conquête-là, elle n'est pas complètement folle. Elle sait très bien que c'est une conquête du pouvoir qui va se faire à travers des alliances. Nous sommes, je le dis d'un mot, parce que pour ne pas qu'on se trompe de combat, nous sommes allés à un moment où en Europe, la droite dite libérale, classique, républicaine, appelez-la comme vous voulez, conservatrice, etc., est en train de changer de stratégie, de tactique politique. Elle a construit l'Europe libérale en alliance avec les forces de la social-démocratie à l'échelle européenne. Elle est en train aujourd'hui de réaliser qu'elle ne gardera pas l'Europe en crise, qui est menacée d'implosion aujourd'hui, qu'elle ne gardera pas cette Europe-là dans la poursuite de cette alliance. Et elle est en train de bouger. Et on sent, dans un certain nombre de pays européens, la naissance d'une alliance nouvelle entre la droite dite classique, libérale, et un populisme bontain. Et toute la stratégie de Marine Le Pen est là. L'alliance entre l'UMP et le FN, la question, c'est pas de savoir si elle va se faire, c'est quand elle va se faire, dans quelles conditions et sous l'hégémonie de qui. Et c'est à cette question-là qu'elle travaille. Alors, Vitrolles, quand même, un petit mot. Vitrolles, c'est intéressant parce que ma collègue de l'Université d'Avignon a dit une chose qui m'a fait sourire, parce que j'y avais été à une époque, j'avais été me balader là-bas et discuter avec eux. Le modèle est un bonbon. C'est assez intéressant parce que à Vitrolles, on a le modèle est un bonbon. C'est-à-dire qu'on a le croisement d'une crise sociale et d'une crise politique. La crise sociale, elle est évidente. Vitrolles, par exemple, c'est la ville dans les Bouches-du-Rhône où il y a le plus de logements sociaux, où il y a le plus de grandes cités populaires, où il y avait... pourtant, il y a 1000 entreprises, il y a une zone industrielle gigantesque, mais il y a une crise de l'emploi considérable et des populations considérablement marginalisées. Et en même temps, il y a une crise politique gravissime qui est provoquée par un maire, on va dire indélicat, pour ne pas s'emmerder la vie. Et cette crise politique réelle, majeure, elle croise cette crise sociale et au croisement des deux, on a l'émergence de Maigret. Alors c'est le FN à l'époque, mais on va vite se rendre compte que Maigret a une stratégie personnelle au sein du FN et qui va se servir de vitrole pour mettre en œuvre cette stratégie personnelle. Cela dit, ce qui est quand même intéressant, c'est que très vite, on a une époque, et vous allez voir que ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est qu'à cette époque-là, Vitrolles, Marignane, Toulon, ça va être l'isolement total, immédiat. Voilà. Isolé des collectivités, des autres collectivités territoriales, plus personne ne va vouloir discuter avec eux, plus personne ne va vouloir faire de projets avec eux, etc., etc. Ils vont se retrouver dans une situation très compliquée, y compris de gestion. En plus, ils ont une incompétence totale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans l'appareil d'État des gens qui travaillent pour le Front National, c'est évident. Sinon, Marine Le Pen n'aurait pas les éléments qu'elle possède aujourd'hui elle-même. D'ailleurs, des gens comme Florian Philippot appartiennent à cette tradition, mais il y en a beaucoup qui sont, à mon avis, sous-marins. Sous-marins, d'ailleurs, voilà. C'est-à-dire que vous avez immédiatement une attitude frontale de la mairie de Vitrolles, isolée, elle attaque, elle supprime elle ferme le sous-marin, lieu de musique actuelle, etc., musique alternative, elle s'attaque donc au soubassement culturel et au fonctionnement culturel de la ville. Il y a y compris des dimensions idéologiques très vite qu'on met bien en avant, par exemple l'histoire du bébé blond bien arien où la mairie donnait une, elle ajoutait à la location familiale une prime, etc. On va avoir comme ça des choses, on va mettre beaucoup l'accent sur Vitrolles en Provence, sur l'identité régionale, on va isoler complètement ce que Bompard a réussi à Orange, ce que les Maigret n'ont pas réussi à Vitrolles, c'est-à-dire qu'on va isoler les quartiers populaires, on est dans une logique qui est une logique qui ne peut pas durer. Voilà. Bompard, il a duré parce qu'il n'est pas resté dans cette logique-là, parce qu'il est allé beaucoup plus loin et il a été beaucoup plus intelligent dans sa manière, y compris d'aborder la gestion de la ville. Bompard, c'est une espèce d'intégration entre libéralisme et populisme relativement réussie. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen n'ait pas cet objectif-là en tête. Voilà. Donc, Vitrolles, c'est pas du passé. On a fait ce qu'il fallait. Il y a eu beaucoup d'événements dans l'histoire politique de Vitrolles. On a eu la liste que j'avais conduite, puis ensuite la réunification de la gauche. Tout le monde a joué le jeu et on s'est débarrassé des Maigret sur une base qui consistait à... mais qui pose problème, nationalement parlant, qui consistait à affronter et la crise sociale et la crise politique. Je pense qu'on a affronté la crise politique, on n'a pas affronté la crise sociale. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où la profondeur de la crise sociale est telle que toute dimension de crise politique qui surgit dans le pays donne au rapport à la politique une voilà, c'est les plafonds de verre, dit le monde. Le monde d'aujourd'hui ou de l'après-midi, je ne me souviens plus. Le monde parle des plafonds de verre. Et il parle de... Il y a plusieurs articles dans Le Monde depuis deux jours où on est en train, en gros, de nous expliquer pourquoi, on tente d'expliquer pourquoi ce croisement de crise sociale, je ne veux pas de dessin, et de crise politique, je vous fais encore moins de dessin, est en train de produire aujourd'hui, non pas des effets à gauche, qu'on pourrait éventuellement attendre, mais des effets à droite. Et donc, c'est sans doute la question centrale qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment se fait-il que les forces de gauche, y compris celles qui ont pris une certaine distance avec le pouvoir actuel, ne bénéficient en aucun cas d'une situation de crise où se mêlent à la fois une crise sociale et une crise politique, alors que le Front National, lui, apparaît comme une force alternative.
Merci. On reviendra sur ces questions après, évidemment. J'ai oublié de citer tout à l'heure José Lanzini, qui devait venir, qui voulait être ce soir avec nous et qui venait de Toulon pour parler de Toulon et de l'expérience Le Chevalier. Il est aussi, c'est un écrivain qui travaille, qui publie des livres sur Camus et autres. Il était en Algérie et il est coincé, il y a eu un problème d'avion, il devait être... Voilà. Et donc il s'excuse, mais il aurait vraiment aimé être là ce soir. Je n'ai pas cité non plus Clément Chassot qui se cache derrière et qui est l'auteur de l'enquête Maréchal voilà, sur l'implantation à Carpentras, je vous invite à lire, qui peut-être il pourra prendre le micro et intervenir et répondre aux questions ensuite dans le débat. Alain Biot, donc on passe facilement de Vitrolles à Marignane. Retour en arrière, pareil, la ville n'est plus s'est débarrassée de son maire d'extrême droite. Quelques mots là, l'expérience passage.
Oui, donc moi, je ne suis pas marignanais d'origine, je ne suis pas du tout de la région d'origine. Et j'avoue que quand nous sommes arrivés sur la région 86, on a été vraiment estomaqués par la présence du Front National sur Marignane. Marignane, c'est vraiment le berceau du Front National. Déjà en 86, quand on est arrivé, ils étaient dans les 33% des votes de voix à Marignane. Donc, ça a été la grosse surprise. Et peu à peu, donc... on s'est investi dans le domaine associatif pour voir un peu ce qu'on pouvait faire contre cette montée du Front National. Mais on s'est bien rendu compte aussi qu'il y avait une grosse collusion déjà à l'époque entre la droite dite classique et le Front National, surtout sur Marignane. Nous, on avait un électorat qui était composé essentiellement de pieds noirs. On a à peu près un électorat qui est à peu près 25% de pieds noirs sur Marignane. Donc, ça pose déjà des données du problème assez sérieuses. Beaucoup d'associations dites patriotiques. Et donc, en toute logique, l'un des premiers maires Front National à avoir été élu, c'est à Marignane que ça s'est produit. Il n'y avait pas de quoi être surpris. Pour nous, ça n'a pas été la surprise. On a été agréablement surpris cette fois-là que Maigret n'était pas passé à Vitrolles. Ça n'a pas tardé. Ça s'est passé assez rapidement derrière. Mais nous, ça ne nous a pas surpris. Donc voilà, les premières mesures, moi je vais plutôt faire un historique un peu pour expliquer ce qu'a été la politique du Front National dans la ville qui la gérait. Quoi. Et donc les premières mesures, on avait notre premier adjoint qui était prof d'économie d'ailleurs en passage, hein, qui, première mesure en septembre de 95, puisqu'il était élu en 95, il a suggéré au chef d'établissement de vérifier les cartes de séjour des parents immigrés. On avait un deuxième adjoint qui était instite, lui, qui a fait pression sur le fournisseur des cantines scolaires pour supprimer le port. Ensuite, ça a été la suppression du centre social, du seul centre social de Marignane, une ville de 30 000 habitants dans laquelle il y avait un seul centre social. Ça vous situe déjà un peu le niveau de la ville. Hein. Donc ce centre social a été fermé. Les associations qui s'occupaient un peu d'aide à l'enfance, aux devoirs, etc., se sont vues supprimer leurs subventions. Et ensuite, bon, on a commencé par une attaque en direction des Restos du Cœur. Hein, les Restos du Cœur qui étaient aidés, entre guillemets, par la mairie, l'ex-mairie de Marignane, qui fournissait un local et une camionnette pour pouvoir aller chercher les repas au bagne, puisque le centre distributeur était... sur Bagne. Donc, par décision du maire, on a tout suspendu. Voilà. C'était vraiment la première grosse affaire médiatique de la ville de Marignane. C'est là qu'on a commencé à parler de M. Simon Piri. A noter d'ailleurs qu'il a patiemment entendu, parce qu'il avait prévu de faire ça beaucoup plus tôt, mais en 95, en novembre 95, si vous vous rappelez, il y a eu de grosses grèves de fonctionnaires pour défendre la retraite. Et donc, le moment était mal choisi pour venir pour lui de faire parler des Restos du Cœur dans un contexte social aussi difficile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu après les Restos du Cœur? Il s'est attaqué, puisqu'ils avaient supprimé les Restos du Cœur, ils ont fait venir leur association caritative, hein, qui s'appelait Fraternité Française, qui avait été créée par Stirbois. Le pauvre Stirbois qui était mort dans un accident de voiture dont on ne connaît toujours pas bien les causes. Un peu de rivalité personnelle avec Le Pen, déjà. Cette association qui a été relancée par Maigret, elle a été donc subventionnée. On lui a offert un local à Marignane, local qui avait d'ailleurs été l'occasion à Jean-Marie Le Pen de venir faire un petit tour dans notre chère ville et à nous faire une petite manifestation. Et suite à notre dépôt de plainte auprès du tribunal administratif de Marseille, hein, je vais vous dire un peu ce qui nous a le jugement. Hein. Donc le tribunal a enjoint à la mairie de cesser d'apporter à l'association Fraternité Française toute forme de soutien, notamment par la mise à disposition d'un local gratuit. L'association devra également restituer les subventions versées. Les juges se sont fondés sur la violation du principe d'égalité. Dans les statuts, Fraternité Française précise qu'elle a pour but d'organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur les plans moral, juridique, etc., etc., aux citoyennes et citoyens français. D'accord. Ils ont créé de la même façon une association d'aide à l'emploi qui avec un budget conséquent, puisque c'était quand même 760 000 francs à l'époque, c'était une somme assez importante. On a aidé 12 chômeurs, parmi lesquels, comme disait M. Tarelli, dont on a déjà parlé, hein, aucun maghrébin, aucune personne étrangère ou d'origine étrangère non européenne ne s'est présenté à nos services. Ce doit être l'effet dissuasif du Front National, a noté très logiquement M. Tarelli. Alors, après l'affaire de Fraternité Française, c'était la bibliothèque. Dès l'élection de Simon Pierry, ils ont abonné d'eux-mêmes. Hein. C'est même pas la bibliothèque qui a pris la décision, c'est le bureau du maire qui a abonné de lui-même. La bibliothèque aux journaux Rivarol, Front National Hebdo, etc., etc. Et après, en septembre 1996, toujours M. Tarelli, notre cher ami, a demandé à la directrice de la bibliothèque d'interrompre les abonnements au quotidien Libération, La Marseillaise et les événements du jeudi. Remplacé donc sur les présentoirs, cette fois par présent, Rivarol et National Hebdo. On a acheté massivement des livres écrits par les membres du Front National. On dit par la suite, au moins une quarantaine d'ouvrages ont été signés par quelques figures du FN et de l'extrême droite ont été commandés. Alors on a des livres qui ont été publiés aux éditions nationales, de Jacques Bompard, par exemple, de Jean-Yves Le Gadou. Et à noter que il y a eu même commande de plusieurs, on s'est retrouvé avec trois fois les mêmes livres dans la bibliothèque. Hein. Les livres étaient commandés à plusieurs. Devant la situation, c'était M. Douste-Blazy, à l'époque qui était ministre de la Culture, pardon. Il a demandé une enquête administrative. Et si je retrouve le livre, je vais vous dire ça. Donc, là, un petit peu, je ne vais pas tout lui dire. Hein. Donc, l'enquête administrative faite a conclu qu'en ce qui concerne le fonctionnement de la bibliothèque, les inspecteurs ont constaté le besoin d'une relance et le bien fondé des objectifs proposés par la directrice. Deux lacunes ont pu être soulignées plus fortement, l'étroitesse du budget d'acquisition et l'absence de personnel. Il existe des cas d'intervention de municipalités dans la politique de leur bibliothèque, mais à Marignane, on constate une situation exceptionnelle depuis l'été 1996. Des élus contrôlent les achats de matière continue et se substituent périodiquement aux conservateurs et aux bibliothèques. Conception du pluralisme qui leur est propre, affirmant une conception du pluralisme qui leur est propre. On a organisé quelques petits séminaires à l'intérieur de cette bibliothèque sur le polar version extrême droite. Je ne me rappelle plus exactement le titre du débat, tu ne te rappelles plus, sur la culture.
La crétinisation
par la culture, voilà, exactement. Le genre de débat auquel nous avions droit à la bibliothèque municipale. Alors, cette bibliothèque portait le nom de Jean d'Ormesson. La directrice des bibliothécaires de France lui avait écrit en lui demandant d'agir pour que la bibliothèque soit débaptisée, que son nom ne soit plus associé à ce type d'établissement. Monsieur d'Ormesson a refusé, prétextant qu'on lui forçait la main, comme on lui avait suggéré, il n'a pas aimé, donc il a refusé de débaptiser la bibliothèque, de demander la débaptisation plutôt. Et il y a eu aussi après un documentaire qui a été fait sur cette bibliothèque, hein, ça s'appelait Bibliothèque sous influence, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé à la télé. Une des dernières choses faites par la municipalité, ça a été l'implantation d'une stèle. Une stèle demandée par l'ADIMAD. Alors l'ADIMAD, c'est l'amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française. Donc, après bien des tergiversations du tribunal administratif, la stèle avait été implantée dans le cimetière de Marignane. Nous avons beaucoup bataillé, avec l'aide de fils de victimes de l'OAS. Et pour finir, la cour administrative d'appel avait annulé l'autorisation de la stèle. C'était le seul maire qui avait pris une décision du maire qui avait autorisé la stèle dans l'intérieur du cimetière. Donc les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a demandé qu'on retire la stèle, c'est les dates qui étaient mises sur cette stèle. Alors nous avions le 7 juin 1962, qui concernait Albert de Vaucard et Cole Pietz, qui ont été fusillés. Ils avaient participé tous les deux à l'assassinat d'un commissaire de police d'Alger, Roger Gabory. Le 6 juillet 1962, qui correspondait également à l'exécution de Roger de Guelph, qui était responsable des commandants Delta de l'OAS, et qui avait assassiné au passage aussi six inspecteurs de l'éducation nationale, parmi lesquels Mouloud Ferraoui. Et enfin, le 11 mars 1963, où c'est Jean-Marie Bastien Thierry, qui avait été également l'organisateur des attentats contre De Gaulle, en particulier au Petit Clamart. Donc pour ces dates, le tribunal administratif avait demandé la suspension de la stèle. Entre parenthèses, depuis le temps, ils ont enlevé les dates. Et le maire de Marignane leur a donné tout à fait, je vais quand même dire, parce que c'est pas mal de juste finir là-dessus, l'intervention de l'avocat au tribunal administratif. Donc, il a dit, là, cette saga n'a que trop duré, il est temps de faire venir la paix de l'esprit. La ville jadis FN justifie son monument de la discorde, non pour de vils profits électoraux, mais juste parce que, consciente des sentiments vifs, elle a voulu permettre à une partie de la population d'honorer ses morts. Les dates fortement polémiques ont été censurées pour purger cette stèle de ses vices intrinsèques. Plus aucune mention ne les relie directement à l'ancienne stèle. Aucune apologie du crime n'y est inscrite. Voilà. Et il y a toujours, c'est toujours en procès d'ailleurs, M. Gabory est toujours en procès sur ce sujet. Voilà, si vous avez d'autres questions sur la politique municipale, on peut y revenir.
Merci. Dans l'enquête qu'a réalisée Clément Chassot sur Carpentras, quand il a posé la question au futur candidat donc du Front National à Carpentras, aux prochaines municipales, de savoir quel était son programme en fait pour la ville, il a dit c'est très simple, je vais faire à Carpentras ce que Bompard a fait à Orange. Voilà, ça c'est mon programme. Christine Badinier, on va nous dire un peu ce que ça donne donc, à Orange.
Donc, Christine Badinier, je suis présidente d'une association qui s'appelle Orange Autrement, qui aide Anne-Marie Autant, ici présente, à avoir une petite voix dissidente sur la gestion de Bompard sur Orange. Donc, on essaie d'informer la population sur ce qui se passe réellement dans leur ville. Donc, je voudrais en premier lieu remercier nos hôtes et les organisateurs de ce débat. Parce que ce qui nous manque le plus, c'est vraiment de pouvoir parler, communiquer et de pouvoir être compris. Donc là, rien que pour préparer ce petit débat, moi je n'ai pas du tout l'habitude de prendre la parole, j'ai passé un certain temps à essayer de trouver les mots pour vous convaincre et pour vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est vraiment difficile à expliquer un peu de mots et pour convaincre les gens de la réalité de ce qui se passe. Voilà. Donc je ne vais pas peut-être lire mon papier parce qu'il y en a pour un moment, mais je vais vous expliquer. Donc, moi, on m'avait présenté ce débat comme étant une explication de la gestion d'extrême droite. Donc, la gestion d'extrême droite à Orange, pour moi, ben, c'est un système. Un système qui repose sur trois piliers. Et ce système, ce n'est pas de la gestion. C'est un déni de gestion. Bon, Paris ne gère pas une ville. Il n'aime pas le service public. Il n'aime pas le service public, il n'aime pas les fonctionnaires, il n'aime pas gérer, il n'aime pas les problèmes. Fonctionnaires, c'est des fainéants. Et les fonctionnaires, c'est difficile à gérer, ça se met en maladie. Et il le dit au conseil municipal comme ça. Hein. Voilà. Donc, pour moi, le système Bompard, donc c'est assimilable à un refus de gérer. Donc, premièrement, il a pris la main sur Orange. mais d'une façon, une mainmise très poussée sur le territoire. Deuxièmement, il a un contrôle très fort, très poussé aussi de son image par un travail quasi à temps plein. C'est son travail, presque le seul travail qu'il a, c'est de travailler sur son image. C'est piloté par un service de communication vraiment très important avec un personnage clé qui s'appelle André-Yves Beck. André-Yves Beck, c'est le chef de cabinet, très bien payé, qui est uniquement qui consacre que son temps à ça, à travailler sur l'image de Bompard. Et enfin, le troisième pilier, c'est donc de limiter, de trouver tout ce qu'il faut pour limiter et faire une gestion superficielle de la gestion publique, donc, qui vise à conforter deux piliers, en mettant en avant, en créant un mythe, les impôts seraient bas orange et diminueraient sans arrêt. Et ça, c'est uniquement un mythe, c'est un mensonge. Donc les conséquences pour nous, à Orange, sont dramatiques. C'est vraiment dramatique pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, parce que ça nous handicape et ça nous interdit de futurs aménagements et de futurs développements. Donc je vais vous expliquer, premièrement, la mainmise, comment ça se passe. C'est une infiltration de l'administration, donc de l'outil mairie. Il a placé tout le monde, sa famille, son neveu, son fils, sa belle-fille, son gendre, puis il a employé aussi des personnages comme André-Yves Beck, des idéologues qui sont convaincus et très forts. Voilà. Il a assujetti tout le monde associatif, les administrés. C'est-à-dire c'est du clientélisme, c'est si tu bouges, plaf, plus de subventions. Tu n'auras plus les chaises pour faire ton animation, ta kermesse, tu n'auras pas le micro, tu n'auras pas la salle, tu n'auras pas les créneaux horaires, voilà. Donc il a assujetti tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fait des habitants, non pas des citoyens auxquels il doit des services, mais des sujets, qui doivent venir quémander un petit avantage et qui doivent se payer en contrepartie d'une aumône. Donc, et il a assujetti de même toutes les associations. Donc c'est aussi une organisation opaque et des pressions sur les élus et le contrôle de notre parole, nous, d'opposants. On ne peut pas communiquer à travers les mêmes, de façon légale, hein, à travers le journal municipal, notre tribune libre est sans arrêt censurée, on nous enquiquine sans arrêt. La dernière tribune libre que nous avons voulu publier, donc c'est on a droit à 164 mots, on en a envoyé 71, on a reçu pas moins de 10 mails, pour nous dire « Ah mais ça n'allait pas, ah mais si, il fallait faire comme ça, ah mais je crois que vous avez demandé de vous séparer du groupe. » Il nous a fallu pas moins de 10 mails pour finalement pouvoir publier 10 mots, 70 mots. Mais la plupart du temps, on n'arrive même pas à publier notre tribunal. Voilà, donc on nous coupe la parole. Donc ça, c'est la mainmise sur le territoire. Deuxième pilier, donc c'est le culte de son image. Bompard, maire, soigne et cultive son image. Soigner et cultiver son image, c'est devenu vraiment son premier travail. Ça l'occupe le plus clair de son temps. Il est sans arrêt dehors, au marché. Il fait tous les marchés. Il serre toutes les mains. Il passe la main dans le dos de toutes les mamies. Il les appelle par leur prénom. Il leur fait la bise. C'est du clientélisme, des rencontres de quartier. C'est des inaugurations au moindre bout de trottoir. C'est des cérémonies. Mais aussi, c'est l'instrumentalisation de Claudius. Claudius, c'était un bâtiment majeur du précédent maire, qui n'a jamais été terminé et qui est dans un état de délabrement invraisemblable, mais uniquement parce qu'il n'a pas été fini et que monsieur le maire s'en sert, l'instrumentalise pour montrer aux Orangeois qu'avant lui, c'était la déchéance totale. Et c'est fou. Puisque s'il avait été simplement terminé, la déchéance totale, et qu'en plus, ça a coûté très cher. Parce qu'il marie un petit panneau depuis 1995 sur les grilles de Claudius, indiquant que ça a coûté moins de 19 millions d'euros aux Orangeois. Sauf que dans le plan de financement au départ, ça aurait dû nous coûter que 3 millions. Ça nous a coûté 19 millions parce que monsieur le maire ne l'a jamais fini, il n'a pas touché les subventions, Il n'a pas pu exploiter le musée de site parce que le musée de site aujourd'hui il a été vendu à la découpe à d'autres organismes. On n'a pas fini le travail et ça se délabre, ça prend l'eau sans arrêt. On a dans les Oranges Vérités des images de ce Claudius qui est instrumentalisé pour montrer qu'avant lui c'était la déchéance totale. Donc voilà, c'est le culte de son image, on instrumentalise tout. Y compris aujourd'hui l'histoire de la piscine, le complexe aquatique. Sachez qu'à Orange, on n'a plus de piscine, mais ce n'est pas sa faute, c'est qu'on l'empêche. Voilà, on est victime. Voilà. Enfin, le dernier pilier, c'est la gestion. Bon, par la gestion, je vous ai expliqué, c'est qu'à Orange, tout se passe comme si les compétences municipales se réduisaient à l'urbanisation, les voiries et ses points finaux. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. C'est un vrai refus de gestion d'un service public. Les services communaux, pour mon part, il faudrait qu'ils ne lui coûtent rien et ne l'embêtent le moins possible. Alors, s'il peut les supprimer, ben, il les supprime. Piscine, plus de piscine depuis 4 étés. Nous n'avons pas de piscine à Orange. 30 000 habitants, pas de piscine. 2 ans que nous n'avons pas de piscine couverte pour les scolaires, pour les clubs sportifs. S'il peut marcher, on en a supprimé la moitié du marché, celui qui était occupé par les Maghrébins, ma foi, c'était ça, alors on a fermé. Pas de service municipal des sports, ça coûtait trop cher, il fallait regrouper les services. Ben, vous savez, le service municipal des sports, c'est 2 secrétaires qui sont derrière le bureau de la personne qui sert à la médiathèque, alors, qui vient enregistrer vos livres quand vous empruntez les bouquins. Ben, derrière son bureau, carrément dans la médiathèque, il y a juste une petite grille qui les sépare. Et ben là, il y a le petit secrétaire du service des sports qui a été remisé là. Donc c'est quelque chose. Donc s'il ne peut pas supprimer, et ben, il délègue ou il sous-traite. Au moins 10 ans, et parfois contre l'intérêt général. Aujourd'hui, on a un service du ménage qui a été délégué là au 1er janvier, moitié moins cher que l'ancien délégataire. L'ancien délégataire était payé 846 000 euros pour l'année 2011. Le nouveau marché, c'est 395 000 euros pour la même chose, et même plus, puisqu'il demande plus de services. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, là, les écoles, l'hygiène, vous pouvez imaginer qu'elles laissent vraiment dégirer. Mais de partout, dans les gymnases, dans les salles sportives. Voilà. Donc s'il ne peut pas supprimer, s'il ne peut pas déléguer, eh ben, il réduit. Pas de problème. On réduit le service, on les rend inattractifs, on réduit les plages d'ouverture, on instaure des quotas dans les cantines. Par exemple, l'école de mon quartier, moi, une toute petite salle, on avait 100 petits qui mangeaient de l'un. Il refait la cantine, une grande cantine, d'un coup, plus que 60 petits. On met un quota. Pourquoi ? Ben parce qu'on avait supprimé du personnel. On met du quota aussi au Claes, c'est-à-dire le centre de loisirs associé à l'école qui occupe des enfants avant et après l'école et entre midi et deux. Donc c'est des quotas, c'est-à-dire que les gens sont embêtés sans arrêt. Il faut s'inscrire sur une liste. Des gens sont refusés à la cantine aujourd'hui. Des gens sont refusés dans les centres de loisirs associés. Donc vous voulez mettre votre enfant avant de partir aller travailler parce que l'école ouvre plus tard que ce que vous prenez votre travail. Mais il faut trouver une place. Donc des gens s'inscrivent jusqu'à 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance. Il y en a qui s'inscrivent pour l'année parce que si vous inscrivez à la dernière minute, vous n'avez pas de place. Voilà. Donc s'il ne peut pas supprimer, ni déléguer, ni sous-traiter, ni réduire, eh bien il augmente. Il augmente les tarifs avec l'objectif contraire, donc de la solidarité. Le principe du service public, c'est quand même la solidarité. C'est-à-dire que celui qui veut, celui qui a besoin du service, eh bien il a qu'à payer. Voilà ce que c'est que la gestion bon pas. De fait, bien sûr, quand on fait ça, eh bien, on économise. Parce que forcément, quelque chose qui n'existe pas, ça ne coûte rien. Ça, c'est bête, mais c'est de la palissade. On ne peut pas s'en vanter. Par contre, bon, par lui, il s'en vante. Donc, tous les services, l'eau, l'assainissement, le crématorium, les ordures ménagères, ils ont été remontés. Et ils coûtent cher. Ils dégagent des bénéfices. Et enfin, pour cacher son incompétence et les carences de la méthode, eh bien, c'est la victime. Il est la victime sempiternelle de toutes les politiques du monde, de l'Europe, du département, de la région. Et voilà, c'est par rapport à l'affaire Voyer, vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas vous par ici, mais le complexe aquatique qu'il voulait faire sur un site classé, ben, c'est la victime de l'État qui lui a refusé la construction de ce complexe. Donc nous, aujourd'hui, on n'a plus de piscine, mais c'est pas sa faute, parce que lui, il aurait bien aimé qu'on ait une piscine, mais bon, vous comprenez, on lui a refusé. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces investissements-là et ces calculs? Quel est son intérêt? Voilà, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'il fait, Bompard? Ben, il fait des logements. Il organise l'extension de la ville. Le plus d'aujourd'hui prévoit 2040 logements neufs. La ville s'étend, mais il y a plus de 1400 logements de vide en centre-ville et de partout dans les HLM et les logements sociaux. Il fait des routes, parce qu'il faut bien investir cet argent qu'il a économisé quelque part. Et des investissements sporadiques. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 31 millions d'euros sur mes comptes, parce que j'ai réussi à économiser 31 millions d'euros malgré toutes mes erreurs. Et qu'est-ce que j'en fais? Je vais faire un office de tourisme, parce que l'office de tourisme, c'est très important. Il a 50 ans. Il y a des écoles qui ont plus de 100 ans, mais là, l'office de tourisme, ça ne peut pas attendre. On va le faire. On fait des routes. On fait des façades. Donc on a fait une jolie place devant l'ancien hôpital, on a fait une jolie façade, mais bon, l'ancien hôpital, c'est une façade vide. La place, il n'y a pas un banc dessus, on ne peut pas s'y asseoir parce qu'il n'y aurait que des maghrébins qui s'y assoient. Donc les personnes âgées, on leur donne des sièges pliants. On leur a distribué des sièges pliants. On vient retirer les sièges pliants à la mairie, parce qu'on ne va pas mettre des bancs, les autres, ils pourraient en profiter. Voilà. Alors la conséquence de tout ça, c'est que c'est une gestion dangereuse. Elle hypothèque l'avenir, elle appauvrit le territoire, la ville, elle perd son attractivité. Aujourd'hui, Orange a perdu des habitants. Nous avons toujours été à Orange, la deuxième ville du département, nous n'en sommes plus que la troisième ville du département. Et le mythe de Bompard, je vais essayer de finir là-dessus, parce que vraiment le mythe de Bompard, c'est vraiment grave. Et c'est là-dessus qu'il essaye de faire croire à sa bonne gestion. Le mythe Bompard, c'est que les impôts baissent. Les impôts, d'après lui, baissent et baisseraient depuis toujours. Sauf que, de vous regarder le taux, simplement le taux sur le foncier bâti, depuis 2001, c'est plus 35%. Donc le maire, à travers son journal, indique mon impôt baisse. Mais c'est un mensonge, les gens ne se rendent même pas compte. Il suffit que ce soit écrit, répété et re-répété, et on le croit. Les impôts l'année dernière ont rapporté, taxes et impôts, 24 millions. En 2011, c'était 22, plus 8%. Donc, expliquez-moi comment on fait pour faire baisser les impôts lorsqu'on enlève... Comment il est réel que nos impôts baissent lorsqu'on a plus 8%. Voilà. Donc, c'est pour conclure, cette gestion désastreuse nous fait non seulement perdre de l'argent parce que cet argent qui est récolté pour nos services n'est pas donné en service, mais aussi va interdire, parce qu'il fait des installations et développe sa ville d'une façon anarchique, va interdire un développement futur dans l'intérêt général. Voilà, j'ai été peut-être un peu brouillon parce que j'ai pas l'habitude de prendre la parole devant tout le monde. Mais si vous avez des questions, ce sera bien volontiers. Puis vous avez Bernard Vaton là, Anne-Marie à côté. Et je vous remercie.
Merci. Voilà, on va reprendre tout ça, mais à travers des échanges, si on peut faire des interventions courtes, sous forme de questions, et puis essayer de faire quelque chose d'assez dynamique. Alors, par contre, on a le micro baladeur, ne fonctionne pas, donc je ne sais pas si on va y arriver.
Une des grandes réussites de Jacques Bompard, c'est sa victimisation. Ça fonctionne parfaitement. Bon, il y a une sociologie qui vient déceler. Il faut savoir qu'il travaille cette ville maintenant depuis 18 ans. Donc ça laisse quand même. Ça crée une culture dans la position des gens. Bon, dans sa victimisation préférée, par exemple, moi, il me traite de
et de... Il n'ose pas dire fasciste, parce qu'il voilà, il essaye de ne pas donner tous les mots quand même qu'on utiliserait éventuellement contre lui, mais on ne les utilise même pas. Mais par exemple, parce que c'est assez caricatural, donc moi, il me traite de totalitaire et d'incapable de faire du dialogue. Il faut juste savoir qu'à la mairie, en conseil municipal, l'opposition n'a pas droit à un micro. Donc seule la majorité a droit à un micro. On n'a pas effectivement la possibilité d'écrire, de s'exprimer dans le journal. Au début, au premier mandat, parce que moi, ça fait le deuxième mandat que je fais, dès que je dépassais un certain temps, parce qu'il n'y avait pas de mesure du temps, bien entendu, mais dès que les propos le gênaient, il agitait une clochette pour pouvoir m'empêcher de parler. Voilà, ce sont des... l'action de Bompard, c'est aussi... je crois que ce qui est... Christine dit il n'aime pas gérer. Par contre, ce qu'il adore, c'est mettre une pression constante, permanente, une H24, sur toutes les personnes qui, éventuellement, feraient partie de son opposition, et pour asservir les autres, pour créer un manque, créer un besoin, qui fasse que les gens ne comprennent pas, d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas. Lui, il a assez facilement, il dit, mais c'est la loi. Si je suis obligée de faire ça, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la loi. Les gens ne savent pas que c'est la loi que lui-même met en place. Donc tout de suite, la population se dit, c'est la loi du gouvernement français, c'est la loi de l'Europe, qui sont plus visées que les autres institutions. Donc il crée ce manque et il fait en sorte que les gens... Par contre, il dit aux gens, écoutez, je pourrais essayer de vous arranger, venez les voir entre quatre yeux. Et entre quatre yeux, on arrive à arranger les uns et les autres. Ceux qui n'osent pas se déplacer, ceux qui ne veulent pas se déplacer, il y en a de moins en moins, eux n'ont pas accès à quoi que ce soit. En tous les cas, bon, on y reviendra dans le débat, mais le système fonctionne. Et ça, c'est une grande interrogation qu'il faut que l'on partage.
On va prendre des questions, mais ce serait bien de faire pas centrer uniquement sur Orange. Alors, je sais, encore une fois, je ne sais pas si le micro va...
Non, mais ça ne fait rien. Hein, bah, j'ai une simple question. Comment se fait-il qu'avec tout ça, Bompard soit réélu?
On va peut-être prendre 2-3 questions. Si elles sont aussi courtes, on peut le faire.
Au-delà d'une question, un témoignage. Je suis enseignant, je suis responsable syndical et je participe à toutes les commissions paritaires de vos communes, dont le CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, où l'État va donner des postes d'enseignants, c'est-à-dire des postes budgétaires, pour ouvrir des classes là où il y en a besoin. Systématiquement, donc syndicalement, on a interpellé encore le sujet cette fois-ci, mais c'est tous les ans, systématiquement, le maire Bompard refuse. Refuse des postes budgétaires d'enseignants. Une municipalité doit fournir des locaux, doit fournir du matériel pour les écoles. Maintenant, tout ce qui est de la gestion des personnels et de la rémunération, c'est pas lui, c'est l'État. Eh bien, c'est un pouvoir qui lui appartient, bien évidemment. Mais au-delà de la démonstration qu'il y a besoin d'enseignants dans les écoles, il refuse et le préfet ne peut rien faire. Il y a des écoles où il y a des classes, il y a des locaux qui sont faits, avec des tables, avec un tableau. Il n'y a plus qu'à mettre un maître qui ne sera pas payé par lui. Mais non, il ne le peut pas. Donc il joue par un système de dérogation où il rend service individuellement à sa population. Effectivement, une population qui devient redevable à merci de « moi j'habite ici, mais ça m'arrangerait parce que je travaille ailleurs, que mon enfant puisse aller dans telle école. » Ok, pas de problème. Je ne vous demande pas tout de suite, mais à un moment, il faudra quand même le rendre à la preuve. Ça, c'est son fonctionnement. Il a été évoqué l'histoire des cantines. La seule solution pour qu'il fasse quelque chose, alors je vais parler des écoles publiques, parce que les privées, je ne maîtrise pas, ça a été par exemple qu'on le mette devant ses obligations concernant l'informatique. Il y a un moment où dans toutes les écoles de France, il doit y avoir une salle informatique, des postes informatiques, parce que dans les programmes de l'éducation nationale, on doit enseigner l'informatique aux élèves. Il y a certaines écoles de Fourchevieille ou ailleurs, où dans un premier temps, les enseignants, à travers leur inspecteur de circonscription, réclamaient des postes informatiques pour les élèves. La réponse était, apprenez déjà à lire aux élèves, quand ils sauront lire, ils leur donneront plus. C'est seulement parce qu'à un moment, le préfet lui a dit « ça suffit », c'est dans les programmes de l'éducation nationale, vous devez payer et fournir et installer le matériel, qu'il s'y est résolu. Mais encore en victimisation. C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite de la légalité, mais il y aura toujours ce moment où il va jouer sur la corde raide et avec cette pression énorme qu'il nous fait. C'est-à-dire qu'il faut dépenser une énergie folle pour réussir à obtenir quelque chose. Maintenant, alors, c'est un témoignage. Maintenant, au niveau de la question, ouais, et par rapport au travail que vous avez fait, nous, sur Carpentras, j'ai l'impression que ça peut nous arriver très vite. C'est-à-dire que l'opposition municipale, que ce soit de droite ou de gauche, n'arrive pas à se structurer, non pas parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes de bonne volonté qui proposent autre chose et qui dénoncent son système, parce que finalement, l'électorat, qu'est-ce qu'il fait? Il vote à 68% pour lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, au-delà de tout ce qu'on dit ce soir, qu'on va pouvoir démontrer dans toutes les campagnes, ici aussi à Carpentras, quelque part, Basso, je suis désolé, Monsieur Basso, qui est notre conseiller général, je suis désolé, est-ce qu'il a été élu sur un programme? Absolument pas. C'est Carpentras, c'est toute sa région, c'est Entraigues, c'est Sarrian, c'est tout qui est menacé, c'est Cavaillon qui est menacé. Là, il y a un maire de droite qui fait relativement fort et qui est pas trop loin, du Front National. Pourquoi il y a un moment dans le tissu ici, on va se retrouver avec des femmes, des hommes, hein, qui, il y a un espèce de non-sens collectif, je dirais, parce que tout ce qui a été décrit, la destruction des services publics et l'utilité des services publics, que ce soit de l'éducation, que je connais mieux ou ailleurs, et pourquoi les gens sont en train de se couper, finalement, ces services publics, et un jour vont se ramasser. Et pour autant, ça marche. Qu'est-ce qui explique cette... Qu'est-ce qu'on donne en plus au Front National pour que ça marche?
Moi, je voudrais qu'on évite de d'ériger Bompard en étalon de la stratégie actuelle de lutte contre le Front National. Et je veux dire, je me suis intéressé à Orange et à Bompard parce que j'ai été associé à un film que vous avez sans doute vu qui s'appelle Main Brune sur la ville. Et du coup, j'ai regardé d'un petit peu plus près cette affaire-là. Arrêtez de croire qu'il y a un mystère dans la gestion Bompard. Elle est très claire, la gestion Bompard. Il s'agit de recomposer socialement sa ville. Pourquoi la ville baisse en nombre de population? Parce qu'il vire les Orangeois, tout simplement. Et pourquoi il ne veut pas de service public? Parce qu'il ne veut pas que les classes populaires restent à Orange. Pourquoi il isole et il ne se livre à aucune réhabilitation de cités et du logement social? Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et ça, c'est un élément majeur sur lequel il faut qu'on réfléchisse. On a affaire à une gestion tout à fait réactionnaire, profondément libérale, anti-service public. Très franchement, vous trouvez qu'il y a de Bompard qui mène ce type de gestion? Donc posons-nous la question de savoir comment on se bat, comment on réagit. Deuxième question posée par Orange. Bompard a réussi quelque chose, sans doute, parce que effectivement il a pris ses distances avec l'appareil du FN, bien qu'il appartienne à une idéologiquement à une frange qui est encore plus dure que celle du FN. Mais il a pris ses distances avec l'appareil et ça lui a permis de construire une stratégie d'alliance localement. N'oubliez jamais que le président du comité de soutien de Bompard à la dernière législative est un maire UMP. UMP, voilà, c'est tout. Et son comité de soutien, il est bourré de gens de l'UMP. Il est en train, lui, de réussir la dédiabolisation dont Marine Le Pen rêve. Et ça aussi, c'est une question. Et je m'arrête. Mais moi, je souhaiterais qu'au-delà d'Orange, on se pose une question forte à Carpentras ou ailleurs, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, partout. Voilà, partout où on a cette difficulté. Parce que arrêtez le fantasme. Marine Le Pen, à la présidentielle, fait un score inférieur au total des voix de Le Pen et de Maigret. Donc l'irrésistible ascension, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Il y a même certains sociologues aujourd'hui qui prétendent, Emmanuel Todd, tiens, dans le système français, le mystère français, le bouquin qui vient de sortir, Todd il dit, et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, on a débattu dans un débat public, il dit, et il n'a pas totalement tort, parce que quand on regarde les chiffres de près, on arrive à ce type de résultat, qu'on est arrivé à un certain taquet. Voilà, elle est arrivée à un certain taquet. Ce qui change aujourd'hui, fondamentalement, c'est qu'elle est en train de parvenir à faire vivre l'idée qu'elle est une alternative à la droite actuelle et qu'elle peut être une alternative à toutes les politiques libérales. Le problème que nous avons, c'est que le gouvernement actuel mène une politique libérale et donc elle apparaît comme une alternative au gouvernement. Et la droite, d'évidence, Sarkozy, menait une politique libérale. Le problème de fond que nous avons, il est de nature politique. Comment on affronte le Front National comme vecteur tout simplement de la reproduction, de la domination du système libéral dans un pays comme le nôtre. Voilà. Et ça veut dire démarche citoyenne. Moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Très honnêtement, tout le monde connaît mon appartenance politique. Tout le monde sait que je suis un responsable, y compris national, du Parti communiste. Je peux vous dire une chose, le combat contre le Front National, on l'avait vérifié à Vitrolles, on le vérifie partout, il passe par des démarches citoyennes. Il passe pas uniquement par des problèmes d'alliance, il passe par un rassemblement qui déborde le cadre politique et qui tente de construire une véritable démarche citoyenne et populaire. Voilà. Et ça, c'est la plus grosse difficulté que nous avons. La plus grosse difficulté. Si nous abordons la question des municipales à l'ancienne, je peux vous le dire, eh ben on va aller vers de sacrées grosses désillusions. Voilà. Grosses désillusions.
Une question.
Oui, ben, je trouve que la question politique que vous posez, elle est bien posée. Parce que, en fait, c'est pas. J'ai du mal à considérer que c'est le Front National qui est responsable de la montée du Front National. J'ai du mal à considérer que c'est le Front National qui est responsable de son enracinement. Et donc, je me pose la question de quel enracinement. Parce que, par exemple, Madame Bompard, qui avait été renouvelée aux dernières cantonales, elle a été reconduite sur le mandat de conseillère générale. Parce que on a trois maires. On a deux députés, trois maires, trois conseillers généraux. C'est ça l'ancrage en Vaucluse, dans un des départements où il y a avec un taux de pauvreté parmi les plus élevés de France. Et en fait, elle a été reconduite sur le mandat en perdant 1400 voix. 1400 voix. Et donc ça veut dire, et ça revient au chiffre que vous donniez par rapport au scrutin de 2002 sur la présidentielle, moi je l'avais bien en tête ça. Et ça veut dire qu'en fait, l'ancrage du Front National, il se construit sur la base de l'effondrement, de la participation des citoyens aux urnes, au scrutin. Et je considère, puisque vous posez la question, je me permets d'apporter une réponse et pas une question, je considère que si on en est là, c'est parce qu'il y a une perte de souveraineté populaire. Il y a un effondrement de la souveraineté populaire au travers de la perte de la souveraineté monétaire, au travers de la perte de la souveraineté budgétaire, au travers de la perte de la souveraineté économique, de la politique industrielle. Tout cela étant contingenté par des règles qui se passent à Bruxelles et qui sont co-validées par nos gouvernants qui remettent les ficelles de la marionnette qu'ils deviennent. Et je pense que le peuple, il a compris, dans sa globalité, que c'est plus ici que ça se passait, c'est là-haut, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que quand M. Hollande il fait ratifier le pacte budgétaire, il remet les ficelles de la marionnette qu'il va devenir, parce qu'il va devoir derrière mettre en œuvre les politiques d'austérité qui sont prévues. Et donc c'est ça que le peuple a compris. Et c'est ça qu'il faut attaquer frontalement. Et c'est pour ça, à mon avis, que le Front de Gauche, par exemple, sur une primaire comme les partiels qu'il y a eu récemment dans l'Oise, et plus récemment là où il y avait Cahuzac, il ne progresse pas. C'est qu'il faut attaquer frontalement la question de la rupture, non pas avec les politiques de l'Union européenne, mais avec des institutions de l'Union européenne qui sont parfaitement antidémocratiques et qui dépossèdent le peuple du contrôle populaire. Merci.
C'est peut-être sur le vote FN, on parle de vote processataire, mais est-ce que vous constatez aussi une adhésion, une progression de l'adhésion, d'un vote d'adhésion?
Alors, avant de répondre peut-être à la question, juste deux remarques, parce que effectivement sur la résistible ascension de Marine Le Pen, les scores, etc., la progression, l'ancrage, il y a un gros souci dans nos sociétés démocratiques, hein, c'est qu'on a des sondages préélectoraux qui sont faits un an avant une élection. Et pendant des mois, on répète que Marine Le Pen va atteindre des scores faramineux. Et quand les gens parlent des résultats électoraux, ils ne savent plus très bien si on parle des résultats, si on parle des sondages, si on parle... Et tout ça, c'est fait sur de la déclaration. Donc au final, on se retrouve avec une société sondagière dans laquelle on crée l'illusion de cette ascension. Et effectivement, quand on regarde, il n'y a pas nécessairement de progression, même si ancrage et des inquiétudes à avoir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de progression de voix, elles ne sont pas forcément là. Donc attention aux sondages qui souvent nous font croire en fait que la victoire de Le Pen est déjà là. Voilà. Donc ça, c'est un peu le problème. Sur le problème que vous avez soulevé, évidemment, si on reprend les travaux sur... et les analyses qui sont faites aujourd'hui sur l'abstention, qui est la vraie plaie de notre système démocratique, et notamment les travaux de Jean-Yves Dormagen, Céline Braconnier, qui ont travaillé sur la démocratie de l'abstention, vous avez des quartiers populaires dans lesquels vous avez 70% des gens qui ne votent pas. Ça, c'est les gens qui ne votent pas. Ceux-là, ils sont inscrits sur les listes électorales. Mais il y en a qui ne sont pas inscrits. Il y a des gens qui sont mal inscrits. Donc vous avez toute une frange de la population qui a complètement démissionné. Aujourd'hui, vous avez des élus qui sont élus par une minorité de gens. Et peut-être que ce que vous avanciez tout à l'heure sur Orange, cette gestion individualisée, elle vient aussi du fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans nos sociétés avec des générations, et notamment des générations nouvelles. Nous, on a fait des questionnaires sortis des urnes à Avignon, et les déclarations en faveur de Marine Le Pen, elle a 10% de déclarations de primo-votants, c'est-à-dire de gens qui viennent voter pour la première fois. C'est elle qui rassemble le plus de primo-votants, c'est-à-dire de jeunes électeurs qui votent pour la première fois. Donc il y a une génération là qui est complètement déboussolée politiquement, qui n'a pas été socialisée à des repères politiques fixes. La gauche et la droite, c'est la génération de l'alternance pour lesquelles c'est la même chose. Ce ne sont pas des repères... Il y a des tas de gens ici qui savent très bien qu'ils n'iront jamais voter à l'extrême droite parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager, qu'on ne peut pas concevoir. Ces nouvelles générations, elles n'ont pas ces barrières-là. Et dans des régions comme les nôtres, dans lesquelles le Front National est présent depuis 30 ans, avec une étiquette qui est là à chaque élection... C'est un choix possible parmi d'autres, sans qu'il y ait de garde-fous par rapport à ça. Donc on a à la fois des mécanismes de socialisation politique qui ne marchent pas, on ne socialise plus dans les familles, donc on ne sait pas où on en est politiquement, on a une abstention qui progresse, et ce sont les quartiers populaires qui s'abstiennent le plus, mais ce sont aussi ceux qui se mobilisent le plus sur des scrutins comme 2007, quand il y a un espoir, on peut en penser ce qu'on veut, que ce soit Ségolène Royal, que ce soit Sarkozy, ils ont mis en place une campagne présidentielle où il y a eu le sentiment que quelque chose allait changer. Ce sont les quartiers qui se sont les plus mobilisés. Mais derrière la démobilisation sur les législatives, elle a été énorme. Parce qu'il y a une déception. Donc la gestion individualisée que met en place Bompard, je tape sur l'épaule, je règle le petit problème qui, à un moment donné, vous pose problème. Les gens ont le sentiment qu'il n'y a plus que ça qu'on peut faire pour eux. Parce que, ben, nationalement, effectivement, on est pris dans des contraintes qui font que les programmes politiques ont du mal et à créer de l'espoir et à créer de l'amélioration. La crise sociale dont vous parliez tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc voilà, on est à mon avis dans cette logique. Sur le vote d'adhésion, c'est difficile, parce que quand on parle d'électorat du Front National, il faut savoir qu'on parle de conglomérat électoral. Et ce ne sont jamais tout à fait les mêmes qui votent pour le Front National. On sait qu'on a entre 2 et 5% de gens qui votent régulièrement pour ce parti. Mais le reste, ce sont des gens qui ponctuellement viennent voter, repartent, vont vers l'abstention, parce qu'il y a des bases communicantes évidentes, vont vers localement vers des candidats qui vont soutenir, qui sont à gauche, qui sont à droite, et puis reviennent nationalement vers le Front National. Donc c'est très difficile de savoir si véritablement il y a un vote d'adhésion au programme. Très honnêtement, pour avoir travaillé un petit peu sur les comportements électoraux, c'est une illusion de penser que les gens votent en fonction des programmes. Très honnêtement. On est, quand on interroge et quand on travaille un petit peu sur les raisons des préférences politiques, on demande aux gens, moi les gens que j'ai rencontrés, par exemple au Front National, pour la majorité, ne connaissent pas les propositions qui sont proposées par le Front National. J'ai interrogé des femmes, connaissent absolument pas le programme du Front National en direction des femmes. Donc on n'est pas du tout... les gens qui sont rassemblés ici, dans un café citoyen, il y a des consciences civiques, il y a une volonté de réfléchir à un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des détresses sociales et dans des détresses... Enfin, qui sont démunis en termes de capitaux scolaires, culturels, etc., pour lesquels le fait de taper sur l'épaule ou de régler le petit problème, c'est peut-être aussi ce qui va les aider à affronter leur quotidien. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui a été compris sur ces communes-là. Et Bompard, il s'intéresse à l'électorat qui vote. Il a compris que c'était cela qu'il fallait bichonner. C'est pas les quartiers populaires qui, de toute façon, démissionnent et votent pas. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Ou votent pour lui, voilà, les gens qui votent pour lui.
Ouais, bonjour, j'habite Orange aussi. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on salue le courage de Christine. Vraiment, parce que c'est vraiment pas simple. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Orange. Je pense que les discours, ça commence à suffire. Il nous faut du courage pour affronter la bête, on va parler comme ça, hein, parce qu'il faut quand même y aller un peu. Moi, je suis rentré très doucement dans les associations de parents d'élèves, et on se rend compte que ce clientélisme-là, il est terrifiant, c'est-à-dire que, par exemple, et vous disiez qu'il ne faut pas s'apesantir sur la problématique d'Orange, mais n'empêche que c'est la seule ville de 30 000 habitants en France gérée par l'extrême droite. Donc on peut quand même s'apesantir un peu. Et au Carpentras aussi, mais c'est normal qu'on sorte aussi des trucs sur Orange pour que ça fasse sens aussi, pour que ça soit évité ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Le monsieur qui disait, mais pourquoi il revote à chaque fois Bompard ? Il y a peut-être aussi un élément sociologique, à savoir qu'il y a quand même la Légion étrangère, il y a quand même 2 ou 3 000 familles qui travaillent sur Carita, l'aéroport, et on sait très bien que les bidas ne sont pas forcément des gens qui votent à gauche. Donc ça, c'est un... Mais je voudrais quand même revenir sur le par rapport à la perversion de l'équipe municipale, c'est-à-dire qu'on met une épée de Damoclès sur les parents, on met des épées de Damoclès, et au dernier moment, on retire l'épée, on dit, vous voyez, on a tout géré. Et ça, c'est terrifiant. Un tout petit exemple très rapide par rapport à la carte scolaire. À la carte scolaire à Orange, il y a des dérogations par rapport au système de va-et-vient, des vases communicants, des enfants dans les écoles, etc. Le maire envoie un courrier il y a deux ans aux enfants des écoles, dit attention, les enfants qui ont commencé leur école là ne pourront pas la finir forcément, etc. Ça crée des détresses pas possibles dans des familles qui ont eu par le passé des dérogations, qui essayent de les avoir à nouveau. Il crée la tension pendant un an et demi, et à la fin, là c'est arrivé il y a deux jours à l'école des Sables, on fait des manifestations, etc. On envoie un courrier au maire, il arrive avec son adjoint à l'enseignement, il lui dit, il n'y a pas de problème, vous allez tous re-rentrer à l'école en septembre, comme c'était prévu. Tout le monde crie au génie, alors qu'il n'y avait jamais eu un problème sur la carte scolaire dans le coin, etc. Et c'est sans arrêt comme ça, et c'est terrifiant. Maintenant, notre manière d'aller contre ça, par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on communique. Et moi, le truc qui m'a le plus séché, c'est la crainte des parents de signer des courriers à la mairie. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 2-3 à signer des courriers, que personne n'ose signer par crainte de représailles. Enfin, faut quand même prendre la mesure du problème. Les associations n'osent pas publier un papier dans la presse par peur de se voir refuser une table ou même intenter un procès par la mairie sur les fonds publics de la mairie. Enfin, c'est tout un système comme ça qui est complètement incroyable. Par rapport à l'Europe, oui, très court. Par rapport à l'Europe, je ne pense pas que la solution soit non à l'Europe. Il faut quand même qu'on soit clair entre nous.
Je parle d'Union européenne, moi, pas d'Europe. Hein. Je parle d'Union européenne.
Oui, voilà. L'Europe que nous voulons n'est peut-être pas celle qui est mise en place actuellement. C'est peut-être une autre Europe qu'il faut construire. Mais il y a 15 jours, quand l'Europe, elle a mis un espèce de droit de veto par rapport au photovoltaïque chinois, tout le monde était bien content d'avoir l'Europe. Pour que ça fasse un petit peu de protectionnisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc il faut aller vers plus d'Europe, mieux d'Europe, et puis si l'Europe n'était pas, parce qu'on va rentrer dans la campagne des Européennes, mais l'Europe est à droite aussi, l'Europe est à droite. Si elle était à gauche, ce serait peut-être pas comme ça. C'est pas l'Europe la coupable de tout.
Juste une réaction. Franchement, arrêtez de dire que c'est terrifiant. Parce que plus vous dites que c'est terrifiant, et moins vous attaquerez au problème. Alors, encore une fois, moi je suis très gêné, mais j'ai aucune envie de donner des leçons à personne. Mais franchement, si à Vitrolles on s'était dit c'est terrifiant, on n'y serait pas arrivé. Et on ne sait pas attaquer la bête. Je m'en branle, moi, de la bête. Pour moi, le problème de fond, c'est les Orangeois eux-mêmes. C'est pas vers Bompard qu'il faut se tourner, c'est vers les habitants. Il faut recréer du lien social et de la solidarité. Il faut redonner courage et redonner espoir. Et c'est que comme ça que, effectivement, en très peu de temps, en quelques années, on est parvenu à redonner à Vitrolles l'idée que la ville pouvait être pouvait faire autre chose, elle pouvait devenir autre chose. Il faut être porteur d'un projet de ville d'Orange. Il faut qu'Orange devienne une grande ville avec une grande ambition sociale, une grande ambition urbaine, etc. Il faut qu'on soit capable, encore une fois...
Parce que vous avez dit vous-même au début qu'à Vitrolles, c'était exceptionnel, c'était la première ville. Et du coup, vous étiez seul. C'était pas le Front National.
On n'a jamais été seul, hein. On s'est appuyé sur
la... Première... Vous étiez isolé.
Non, il y avait quatre villes, il y avait quatre villes.
Vous étiez isolé. Oui. Je veux dire, au niveau de la réaction des gens, vous l'aviez, la réaction. Effectivement, nous, à l'heure actuelle, dans, que ce soit Orange ou à Carpentras, eh bien, les gens, ils sont défaitistes, c'est comme ça. Donc, ils sont résignés. Et donc, pour faire rebondir des gens qui sont résignés, c'est bien plus difficile que ce que vous avez vécu à Vitrolles il y a quelques années.
C'est possible.
Je pense que le constat social à l'heure actuelle
c'est possible. Entendez bien ce qui a été dit tout à l'heure. Le grand problème aujourd'hui auquel la gauche est confrontée en matière électorale, je ne pense pas que Christelle me démente là-dessus, c'est pas tant le haut niveau du vote FN, pourtant il est réellement haut. Le grand problème auquel la gauche est confrontée aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est le décrochage de la politisation. C'est ce qu'elle a dit sur la socialisation, sur les formes aujourd'hui. La politisation a reculé dans ce pays. Et quand la politisation recule, c'est la gauche qui recule. C'est pas la droite. C'est pas la droite. Moins on fait de politique, plus on vote à droite.
La droite se démange.
Je me permets juste d'intervenir sur la question de l'isolement. C'est au cœur de la démarche de ce qu'on a voulu faire. C'est aussi le sens du canard et du travail. Nous, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, mais un journaliste critique et impliqué, citoyen, on estime effectivement qu'il y a nécessité de se mettre en réseau, de se confronter, de confronter les expériences. Et c'est le sens même du débat de ce soir et de cette volonté de mettre autour, ici, à Carpentras, dans un lieu plus que symbolique de fête, des gens qui ont eu une expérience à Orange, Marignane, Toulon... donc ça, il y a un enjeu, il y a un gros enjeu là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on arrive à s'écouter et à poser les problèmes franchement. On repart sur le débat. Il y a une question qui n'arrive pas, je la pose, je suis journaliste, je ne peux pas m'empêcher. C'est la question du Front républicain. On est à un moment cette question-là se pose de façon déterminante. D'abord, Marion Maréchal Le Pen, dont on fête, entre guillemets, une année d'élection, elle est arrivée. Avec une histoire liée à cette difficulté, est-ce qu'il fallait pas faire un Front républicain, etc. Et puis là, la semaine prochaine, dans le Lot-et-Garonne, sur les cendres de la circonscription de Cahuzac, c'est pas n'importe qui, la question va se reposer. Et ce qu'on observe aussi dans notre enquête, et ce que j'entends aussi en vous écoutant, c'est aussi ces passerelles qui se créent entre la droite dite classique, l'extrême droite, et le Vaucluse est au carrefour de quelque chose qui a lieu au plan national, mais il me semble précurseur au carrefour de cette recomposition, décomposition des droites, et aussi d'une difficulté des gauches, elles-mêmes très divisées, à se positionner. Et voilà, donc l'appel au Front républicain ne semble plus fonctionner.